On passe maintenant à la séquence Les Voix de l'Alma, l'émission des libraires montalbanais, c'est tous les mardis, avec aujourd'hui Jacques Griffaud, bonjour Jacques.
Bonjour.
Philippe Bernadou de la librairie de Loche,
bonjour. Bonjour.
Et Hugues Dedy, bonjour.
Bonjour.
Alors, quels sont, en cette veille de Noël, les ouvrages que vous nous présentez, Philippe ?
Ben, un beau livre à mettre sous le sapin, bien sûr. Un beau livre et une belle histoire, c'est qui tombe bien pour Noël. C'est un album qui est né du travail qu'a effectué le photographe Jean-Claude Tessier, qui partage sa vie entre le Canada et le Tarn-et-Garonne, travail qui portait sur le travail d'un apiculteur local, Joseph Bornis. Ça a donné un livre qui s'appelle « Les abeilles et la vie », dont le texte est écrit par Didier Van Kovelaert. Didier Van Kovelaert, qu'on connaît, qui a été pris Goncourt, 1994, et qui est romancier, intéressé par les choses de l'esprit et de la nature, a été contacté par l'éditeur Michel Lafon. C'est une commande. Lafon lui a envoyé les photos, lui a dit « Est-ce que ça te dit d'écrire un texte pour accompagner ces photos-là » Il se trouve que Van Kovelaert travaillait précisément à ce moment-là à son dictionnaire de l'impossible qui vient de paraître chez Plon, et il était en train de rédiger l'article « Abeille ».
Oui.
C'était au début, donc. Sans doute, est-ce ce hasard objectif, comme disent les surréalistes, qui fait que la greffe a pris et que le résultat est exceptionnel. Le livre répond à une urgence que les marchands de pesticides ont tendance à minimiser. Oui, l'abeille est en voie de disparition, en danger de disparition. Et on connaît la phrase attribuée à Einstein. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Puisse ce livre égoïstement nous aider à vivre encore plus, en apprenant à aimer et à protéger les abeilles. Les splendides photos de Jean-Claude Tessier nous encouragent à faire en sorte que ne s'arrête pas cette histoire qui a commencé il y a 140 millions d'années. L'histoire des abeilles, pas l'histoire des hommes. Didier Van Kovelaert, Les abeilles et la vie, photographie de Jean-Claude Tessier et abeille de Joseph Bornis. C'est publié par Michel Lafon.
Voilà, je vais rajouter que on avait abordé le sujet de cet ouvrage dans une précédente émission sur CFM il y a à peu près un mois de cela, dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, et Didier Van Kovelaert et l'apiculteur qui ont contribué à l'élaboration de ce livre étaient avec nous. Vous retrouvez ces interviews sur qu'est-ce-qu'on-déguste.com et cfmradio.fr. Jacques Griffaud, quel est votre coup de cœur en cette veille de Noël ?
Eh bien, cette veille de Noël, c'est Le Fémur de Rimbaud. C'est un titre que j'espère assez attractif. C'est un livre de Frans Barthelt. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que Frans Barthelt, il a écrit un livre formidable, qui était là, c'est épuisé en 2004, aux éditions Estuaire, qui s'appelait Terrine Rimbaud. Ça commençait comme ça. Jovedi Merdouilla n'était pas un poète comme les autres. D'abord, il s'appelait Merdouilla, qui est plutôt un nom de peintre. Ensuite, il n'avait pas de chance. Bon, voilà. Ça commence comme ça, c'est un livre formidable. Alors, Rimbaud, alors, vous l'avez vu, Rimbaud se retrouve cette fois encore à l'honneur dans le titre récent du roman de Frans Barthelt, puisque c'est Le Fémur de Rimbaud cette fois-ci. J'ai eu l'occasion, je crois, il y a un ou deux ans, de présenter Frans Barthelt sur cette antenne, j'y reviendrai pas. Sachez simplement que ses livres sont furieusement déjantés et jubilatoires, qu'il a une imagination débordante, qu'il a une écriture savoureuse, et qu'il a beaucoup d'humour, humour tendance noire. Ah, j'oubliais, c'est assez immoral. Alors, s'il y a des culs pincés, des peines à jouir, des paresseux du zygomatique qui écoutent cette émission, ce qui m'étonnerait car on est bien sur CFM, si jamais il y en avait, ce livre n'est pas pour eux. Par contre, toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent passer de bons moments, rire souvent aux éclats, alors à ceux-là, je conseille de prêter l'oreille. Ça commence comme ça, la première phrase, enfin les premières phrases. Autant jouer carte sur table, je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai jamais été solitaire mais sociable, taciturne mais beau parleur, intelligent mais sans prétention. Plutôt beau garçon, n'ayant pas peur de la vérité, mais dénué de la vanité des bellâtres. Alors, cet homme, ce narrateur, puisque c'est lui dont il s'agit, il va nous le dire un peu plus loin, il s'appelle Monroe. Comme Marilyn, exactement pareil, mais on m'appelle Majésus Monroe. C'est pas non plus le nom n'importe qui, dira-t-il. Lorsque l'histoire commence, il tient une brocante. C'est un brocanteur un peu spécial parce qu'il a que des objets de qualité et voilà quelques-unes des merveilles exposées. Parmi les merveilles exposées, le collectionneur n'avait que l'embarras du choix. Une chaussette d'Arthur Rimbaud avec un trou au gros orteil, Le trou était d'Arthur, la chaussette de sa mère. Un os de la main de Napoléon, une éprouvette étanche, contenant la vérole d'Alfred de Musset, un bocal étanche, rempli de morpions anglais vieux de 3 siècles, en bon état de conservation. Une de mes fiertés, c'est toujours lui qui parle, était d'avoir réussi à me procurer le tube digestif de Pantagruel. J'ai dû m'en séparer pour payer l'assurance de la camionnette. Mon catalogue affichait 800 de raretés, dont la plupart étaient si rares qu'elles mériteraient d'être qualifiées d'uniques. Et je n'aborde pas mes accessoires religieux, mes poudres miraculeuses, mes œufs de colon en saindoux cristallisés. Le véritable portrait du Christ à la mine de plomb par un officier romain qu'il voyait tous les jours en ce temps-là. Je reviendrai plus tard sur mon commerce. On renifle bien sur l'escroquerie, mais il faut bien l'avouer, il y a un brin de poésie aussi, non? Un jour, il rencontre Noël. Alors Noël, c'est une fille d'une riche famille, devenue communiste, bien déterminée à faire payer à ses parents les crimes de la bourgeoisie. Entre elle et lui, c'est bien sûr, entre elle et ma Jésus, donc, c'est l'amour fou. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ont la haine des riches, ils ont un goût affirmé pour l'alcool et l'absence totale de scrupules. Alors je vous dis pas comment ma Jésus va se faire passer pour un héros aux yeux de Noël, ni la condition mise par Noël pour que ma Jésus puisse l'épouser. Sachez que les parents de Noël meurent dans des circonstances dramatiques, qu'un énorme héritage se profile à l'horizon, et que du coup le principe de la communauté de biens apparaît bien moins attrayant. Commence alors une guerre terrible, et là France Bartel se déchaîne. Il nous brosse une course-poursuite aux multiples rebonds imprévus, racontée par Majésus Monroe avec toute la gouaille et la faconde du parler brocanteur. C'est vraiment une lecture jubilatoire. Ça s'appelle Le Fémur de Rimbaud. Et alors, c'est un livre pour vous faire oublier toutes les... Si vous avez un peu de noir à l'âme, vous lisez Le Fémur de Rimbaud et vous allez passer un formidable moment.
Merci Jacques Griffou, Philippe Bernadou. On a même le temps d'une petite lecture. Oui, s'il vous plaît.
D'une petite lecture pour un conte de Noël qui nous vient du Far West. Écrit par Cécile Minard, ça s'appelle « Faillir être flingué » et c'est un western écrit par un auteur français, donc. Eau qui court sur la plaine n'avait pas de parents, ils avaient brûlé. Eau qui court sur la plaine n'avait pas de wigam, ils s'étaient déchirés. Pas de provisions, ils avaient roulé. Pas de pleurs, ils s'étaient asséchés. Eau qui court sur la plaine ne voyait plus ni blanc, ni delaware, ni kikapouz, ni cerf, ni loup. Parmi les herbes hautes et drues, elle allait son chemin. Il était lié à la pente, au vent, aux esprits, aux incendies, aux rencontres qu'elle faisait et à celles qu'elle évitait. Son tracé, pour aventurer qu'il paraisse, ne devait rien au hasard. 7 lunes avant d'entendre chanter la mère coyote, elle avait remonté la piste d'un homme blessé. Elle l'avait guetté jour après jour, elle l'avait suivi, mesurant le degré de son affaiblissement, et elle l'avait atteint. Prostré dans un trou de poussière qu'il avait creusé de ses mains, l'homme l'avait regardé venir, brûlant de fièvre. Tout le temps qu'il avait raclé la terre, il avait parlé inlassablement, répétant sans cesse la même phrase qui s'était mise à tourner au-dessus de son chapeau puis de sa tête quand son chapeau était tombé, à tourner comme un essaim de moucheron. Il l'avait dite et redite, jusqu'à ce que ses lèvres craquelées ne puissent plus l'articuler, jusqu'à ce que sa gorge n'émette plus qu'un son rauque, trapu comme un crapaud. Reconnaissant ce bruit, elle avait marché sur lui. Elle touchait son couteau en avançant. Sa main était légère sur le manche, mais tout son être était tendu, attentif au moindre souffle. Dans son éloignement, l'homme avait senti sa concentration. C'était un halo, une sphère de chaleur qui approchait résolument, sans heurts ni précipitation. Il avait senti le moment exact où la sphère l'avait pris dans son volume, quand eau qui court sur la plaine s'était penchée sur son front poudré de poussière, et il l'avait noté dans son esprit comme le miracle et l'accomplissement de sa vie. Elle lui avait craché au visage en portant la lame du couteau nu à sa carotide. Le geste avait été si bref qu'il avait vu sa mort translucide. Et ses lèvres s'étaient fendues sur un sourire de joie. Elle avait tranché en un éclair les boutons de sa chemise et de ses bretelles, puis elle s'était renfoncée dans les herbes. Elle les avait cousues sur sa longue robe de peau comme un ornement de guerre, chacun orné d'une petite plume de jais. Au crépuscule, elle était passée voir si l'homme vivait. Il vivait. Elle avait ramassé son chapeau et s'était à nouveau engagée dans la prairie. Elle était revenue une seconde fois dans la nuit, portant à bout de bras le chapeau retourné qui débordait d'eau. L'homme avait recouvré ses esprits. Il avait bu comme une bête, en aspirant délicatement le liquide entre ses lèvres douloureuses. Il avait béni la lune qui flottait dans le fond de son couvre-chef. Il avait béni la terre. Il aurait béni l'indienne, si elle n'avait fait en sorte de s'y soustraire. Joyeux Noël.
C'est issu de...
Céline Minard, Faillir être flinguée, et c'est publié aux éditions Rivage.
Puisqu'on y est, on rappelle les titres que vous nous avez présentés.
Le Fémur de Rimbaud, de France Bartelt, c'est chez Gallimard.
Et Les abeilles et la vie, texte de Didier Van Kovelaert, photo de Jean-Claude Tessier, chez Michel Lafon.
Et puisque on est la veille de Noël, peut-être qu'on pourrait aussi représenter, vite fait comme ça, les titres et les éditions des ouvrages que vous avez présentés ce mois-ci. Ça redonnera des idées à tous ceux qui, au dernier moment, comme ça, bon, même s'il est déjà un peu tard, voudront mettre un bouquin sous l'arbre de Noël.
Au dernier moment, un cadeau plein d'espoir, La fin du monde de Fabrice Collin en livre de poche, 6,10€, faut pas s'en priver.
Un beau livre aux éditions du Seuil de Michel Pastoureau, Histoire d'une couleur au Seuil, le vert, pardon. Un autre beau livre sur Bourdelle aux éditions Art en scène de Stéphane Cantarouti, et nous avons parlé en tout début du mois du roman graphique consacré à Benoît de Groult, Ainsi soit Benoît de Groult, dessiné par Cattel et édité par Grasset.
Mud Woman, la femme avec la boue de Joyce Carol Oates, qui est publiée chez Philippe Ray, un roman noir mais tout à fait passionnant. Little Bird, un polar qui se passe dans les grandes plaines du Wyoming, par Craig Johnson, qui est publié en format poche Gallmeister. C'est pas 6,40€, mais c'est 10€. Et puis, aujourd'hui, je rappelle donc Le Fémur de Rimbaud, de France Bartelt, un roman hilarant qui a été publié chez Gallimard.
Voilà, si vous avez raté tout ou partie de cette émission et des précédentes, vous les retrouvez en podcast sur cfmradio.fr.
Et toute l'actualité des libraires ainsi que leurs coups de cœur sur librairiemontauban.fr, librairie s'écrivant au pluriel.
Merci Hugues Dedy, Philippe Bernadou, Jacques Griffo.
Bonne je vous souhaite... fin d'année, mais fin je l'écris F-A-I-M.
Joyeux Noël et bonne année, et bonne fête.
Allez, bonne fête.
À l'an prochain.
À l'année prochaine.